talmudique. À l'heure des commémorations du 80e anniversaire du débarquement, des derniers convois vers les camps d'extermination, de la libération de Paris et du début de la fin de la Seconde Guerre mondiale, à l'heure des derniers témoins, ne sommes-nous pas dans la crainte que surgisse une question chez les jeunes générations? Pourquoi se préoccuper du passé? Ou encore, en quoi cela nous regarde? Question simple mais profonde, que l'on ne peut ignorer et pour laquelle il est important que les outils et la matière pour y répondre ne nous fassent pas défaut. Dans notre Europe contemporaine, où les mots nazi, nazification ou dénazification se font entendre comme arguments de conflits violents, la question n'est pas seulement celle de l'oubli, mais celle d'abord de l'ignorance de l'histoire. D'où l'importance d'un retour à la connaissance précise et juste qui commence tout simplement par la connaissance des faits, surtout quand tout a été organisé, comme c'est le cas des nazis, pour ne laisser derrière soi aucune trace des crimes. Que s'est-il passé exactement? Où? Quand? Comment? Qui? Et par qui? C'est un ensemble de pistes de réponse que nous propose en un modèle du genre Pierre-Roland Saint-Dizier pour le scénario et Christophe Girard pour les illustrations dans une bande dessinée consacrée à une page d'histoire peu connue de la Shoah, celle des fusillades massives des Juifs en Europe de l'Est entre 1941 et 1944. L'ouvrage s'intitule « Je n'ai rien oublié », il est sous-titré « Histoire » au pluriel, de la Shoah par balle, c'est aux éditions du Rocher et c'est vraiment très réussi. Messieurs, bonjour.
Bonjour Marc-Alain.
Bonjour beaucoup.
Pierre-Roland Saint-Dizier, vous êtes journaliste, directeur du Albimag et auteur de bandes dessinées. Ce livre ne raconte pas l'histoire de la Shoah par balle, mais votre histoire personnelle, une histoire d'aujourd'hui, l'histoire d'un journaliste et auteur de bandes dessinées qui a intégré un groupe d'étudiants-chercheurs en troisième année de licence à l'Institut National Universitaire Jean-François Champollion à Albi. Parlez-nous de ce groupe d'étudiants et de leurs professeurs et du travail qui fut nécessaire pour la réalisation de votre enquête qui, au fil du temps, est peut-être aussi devenue votre quête.
Un travail, effectivement, de 3 ans de recherche, d'écriture, d'échange, de découverte, de questionnement. Un travail qui commence à l'automne 2021 par un coup de fil un peu informel avec un professeur de cette université à Albi, où je travaille, Igal Fijalkov, que je connaissais déjà, et qui me parle d'un voyage en Pologne qu'il prévoit en mars 2022. Et puis, au fil de la discussion, il me dit « Mais pourquoi on ne travaillerait pas ensemble autour d'une bande dessinée, d'un roman graphique qui raconterait ce voyage et ce travail de ces étudiants, de cette vingtaine d'étudiants qui partent sur les traces des témoins de la Shoah par balle et des derniers témoins de la Shoah par balle. » À cette invitation, j'ai pas hésité longtemps. D'abord parce que, par curiosité, par intérêt, on se connaissait déjà, on se faisait déjà confiance. Je n'imaginais pas où ce « oui » que je lui ai dit ce jour-là allait m'entraîner. Et c'est comme ça que débute donc ce grand voyage à travers le temps, à travers l'espace, ce cheminement personnel, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, cette bande dessinée est véritablement incarnée. 80-90% de ce que vous lisez, de ce que vous voyez, c'est ce que nous avons vécu. Et c'est comme ça donc que débute ce projet. Je commence à rencontrer les étudiants qui partiront donc avec moi en mars 2022. Il y a tout un travail préparatoire. Je participe à des cours. Je découvre la Shoah par balle, ou je redécouvre, sujet qui n'était pas trop évoqué à l'époque quand j'étais au collège ou au lycée, qu'il est mieux aujourd'hui, ça il faut le noter. Et c'est comme ça que débute donc cette aventure que j'imagine avec 3 casquettes. Une casquette de journaliste, avec un travail d'investigation, de recherche. Je ne suis pas historien, Christophe d'ailleurs ne l'est pas non plus. Nous ne sommes pas juifs, donc on a forcément une approche différente. Avec une casquette de citoyen, simplement, qui se pose des questions, qui est au cœur de cette actualité. Alors, à l'époque, il n'y avait pas encore la guerre en Ukraine. Il n'y avait pas encore eu les attentats du 7 octobre, mais malgré tout, nous sommes dans un monde plein d'incertitudes et on se plonge dans le passé justement pour questionner, on en parlera, le présent et éclairer notre avenir. Et puis la 3e casquette, de scénariste. Nous sommes d'abord des raconteurs d'histoire. Nous sommes là pour raconter une histoire. Et la force de cet album est sans doute que cette histoire, on l'a racontée à la première personne, à la fois à travers le regard de ce journaliste qui accompagne ses étudiants et à travers le regard de ses témoins, de ces personnes âgées de plus de 80 ans qui racontent « je n'ai pas oublié, voilà ce que j'ai vu ».
Alors Christophe Girard, vous êtes diplômé de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon et professeur à la Villa Thiol, l'école d'art plastique de Nice. Vous avez plus d'une vingtaine d'albums à votre actif, souvent consacrés à des thèmes d'histoire. C'est le second album que vous réalisez avec Pierre Roland Saint-Dizier. Votre parcours dans ce travail est différent de celui de Pierre Roland, puisque vous n'êtes pas allé sur place pour suivre cette enquête de terrain. Comment avez-vous travaillé avec Pierre-Roland Saint-Dizier?
Un dessinateur est enchaîné à sa table à dessin, donc il n'a même plus le temps d'aller voir le soleil dehors. Je travaille avec Pierre-Roland puisque nous avons déjà fait une bande dessinée ensemble. Donc quand je retravaille avec quelqu'un, c'est que j'ai une totale confiance en lui et que qu'on a bien travaillé ensemble. Donc on a envie de recommencer. C'est une histoire d'amour, entre même si on ne se voit pas beaucoup parce qu'on habite à l'opposé de la France. Et donc quand il m'a téléphoné et qu'il m'a proposé cette histoire, c'était « ouais, illico, je fais ça, ça me plaît, ça rentre dans ma ligne, ça rentre dans tout ce que je fais. » Et j'aime à travailler sur les destins, j'aime à travailler sur l'humanité. Et dans mes dessins, dans mes histoires et dans les histoires que je fais avec mes collaborateurs, j'aime bien scénariste, collaborateur, il y a un côté plus d'équipe. On essaye de faire avancer les choses et de changer un petit peu l'histoire à notre petite échelle. Donc c'est beaucoup de documentation pour travailler, avant même que Pierre Roland m'envoie son histoire, ses écrits, etc. Moi, de mon côté, je commence à bouffer de l'image, à faire plein de recherches, à lire des livres, des textes. Même si je travaille sur une autre bande dessinée, je dessine à mon bureau et quand je vais me coucher, c'est parti pour la documentation, quoi. Et je rassemble des choses peut-être dont je ne me servirai pas plus tard, mais c'est plusieurs gigas sur mon ordinateur de données. Et après, quand j'ai le texte de Pierre Roland, je mets à découper, à organiser. C'est une sorte de gros puzzle qui se met en place.
Christophe Girard vient d'évoquer l'idée d'un travail d'équipe. C'est ce que l'on sent véritablement dans cette bande dessinée. Ces étudiants ne sont pas livrés à eux-mêmes sur le terrain quand ils arrivent, car ils sont accueillis par les équipes de l'association Yachad in Inoum, une association essentielle pour comprendre la question de la Shoah par balle. Parlez-nous de cette association et de son fondateur, le père Patrick Desbois, Pierre Roland.
Alors effectivement, sans cette association, il n'y aurait pas eu cet album, il n'y aurait pas cette démarche de ces étudiants qui partent dans les pays d'Europe de l'Est pour rencontrer ces témoins. L'association existe depuis les années 2000 et effectivement, elle a réalisé un travail colossal de recherche, d'investigation pour retrouver les témoins de la Shoah par balle, de ces fusillades de masse et d'identifier, il y en a plus de 3000, les sites d'exécution qui sont des fosses communes, envahies par la végétation, oubliées de tous. Et l'idée est de recueillir ces témoignages. Ils sont filmés, enregistrés, pour préparer l'après, c'est-à-dire la disparition de ces derniers témoins. Moi, je me souviens qu'en mars 2022, quand on est parti, Yachad in Inoum avait prévu des rencontres avec certains témoins. Le Covid était passé par là, l'âge était passé par là, et on n'a pas rencontré tous ces témoins. Donc, il y a une certaine course contre la montre pour rattraper un peu ce temps perdu, ces décennies où ces fusillades, ces sites d'exécution sont tombés dans l'oubli.
Précisons un petit peu qui est Patrick Desbois et qu'est-ce que signifie la Shoah par balle. C'est une histoire qui est à la fois connue et peu connue.
Alors déjà, quand on parle de la Shoah, et quand on en parle autour de nous, les gens pensent systématiquement, directement, Auschwitz, chambre à gaz, four crématoire. On oublie que sur les 6 millions de Juifs, les quelques 6 millions de Juifs qui ont été exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale, 2 millions ont été fusillés près des ghettos, près des villes, à l'orée d'une forêt, le long d'une voie de chemin de fer. 2 millions. Ces exécutions ont été menées dès 1939 et se sont poursuivies même avec l'ouverture des centres de mise à mort et des camps de concentration. Ces fusillades, ça peut être quelques juifs enterrés dans une fosse commune, comme ça peut être plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de juifs en une journée. On a eu l'occasion en mars 2023 d'aller près de Lublin découvrir le camp de concentration, centre de mise à mort de Majdanek, où en octobre-novembre 1943, sur une journée, 18 000 juifs ont été réunis et fusillés autour de ce camp, et ensuite enterrés, puis brûlés pour ne laisser aucune trace. C'est ça, la Shoah par balle. Un sujet, je le disais d'ailleurs, qui a été peu étudié. Et je tiens d'ailleurs à saluer le travail des trois professeurs qui, à Albi, ont enseigné et enseignent encore à ses étudiants cette page d'histoire. C'est la seule université, alors effectivement Lyon l'enseigne maintenant, mais en 2016-2017, quand ils ont commencé cette unité d'enseignement d'ouverture, la Shoah par balle n'était enseignée nulle part ailleurs. Elle est évoquée en collège, en lycée. J'ai eu l'occasion d'échanger avec des professeurs d'histoire. J'ai eu l'occasion même d'aller dans un CDI, regarder les manuels d'histoire pour regarder comment, voir comment c'était traité. Donc, c'est un sujet dont on parle. Et grâce aussi à l'association Yara Dinounoum, on met des noms, on met des visages et on met ces témoins à l'honneur.
Yara Dinounoum, c'est un mot hybride. Puisque yachad, ça veut dire en hébreu ensemble, et inum, c'est en latin,
en un.
Ça veut dire en un, ça veut dire aussi donc ensemble, à la fois pour dire cette dimension à la fois hébraïque, mais en même temps latine, c'est-à-dire en fait européenne. Et le père des bois, c'est complètement donné à cette association, il l'a créée et il l'a développée pour faire en sorte que ces témoignages soient possibles. Alors, le livre est divisé en deux parties, Christophe Girard, la bande dessinée proprement dite et une partie dossier constituée de plusieurs articles. Pourquoi cette construction éditoriale? Est-ce que c'est quelque chose d'habituel dans vos travaux, dans vos publications? Et comment cela vous a aidé pour réaliser ce livre?
Alors ça m'a pas aidé puisque ce livret est arrivé après, mais dans l'ensemble de ma bibliographie, j'aimerais qu'il y en ait plus, puisque en fait, on travaille beaucoup sur l'histoire et la bande dessinée a cette image de ludicité, si je peux me permettre ce mot horrible. Donc, en faire de la bande dessinée sérieuse, parfois on a besoin, et un sujet aussi fort et aussi
grave,
merci de chercher le mot, a besoin même de ce support en disant qu'il y a des historiens derrière qui disent oui, je pense que cette bande dessinée avait besoin de ce petit tampon en plus, de dire voilà, c'est historique, c'est pas des bêtises, on n'a rien inventé, c'est comme ça que ça s'est passé. Et pour l'évolution de la bande dessinée, c'est même, en tant que dessinateur, pas très confortable, parce que j'envoyais mes planches régulièrement à Pierre Roland, bien sûr, mais aussi aux cinq historiens qui surveillaient tout ce que je faisais et qui critiquaient. Ça n'a pas été une grande souffrance, mais il a fallu attendre que ce collège se réunisse et à chaque fois valide mon travail. Donc, je suis très fier de ce travail parce que là, il n'y a pas de critique, quoi. À part quelques fautes d'orthographe, paraît-il, qui ont été révélées.
On sait effectivement que cette bande dessinée s'adresse à un large public, on pourra peut-être en parler plus tard, mais elle s'adresse aussi au milieu scolaire, au milieu enseignant. Mmh. Et ce cahier rédactionnel permet un deuxième niveau de lecture. Je pense qu'on peut très bien s'en passer. Le lecteur peut très bien se contenter de la lecture de cet album. Je crois qu'il y a du texte, il y a du contenu, il y a du dessin, parce que le dessin parle beaucoup, il raconte aussi une histoire qui a été effectivement validée, complétée, voilà. Avec cet objectif, en tout cas pour le scénariste et pour le dessinateur, de ne pas en faire une leçon d'histoire et de ne pas en faire une leçon de morale. Nous, j'insiste, nous racontons une histoire. Et je dirais même des histoires, d'où le sous-titre d'ailleurs, Histoire de la Shoah par balle au pluriel.
Alors, dans ces histoires, la couverture du livre en offre l'image d'emblée. C'est un gros plan sur le visage d'un soldat allemand qui vise avec son fusil. Cela fait allusion à ces fusillades dont on vient de parler, et un gros plan sur deux yeux d'un enfant en train de regarder. Ainsi, dès la couverture, on comprend que le dessin et les images que vous avez choisies, Christophe Girard, suivent une ligne directrice fondamentale, celle du regard. Et puis on sent que vous avez beaucoup travaillé sur qu'est-ce qu'il faut montrer, qu'est-ce que l'on peut montrer et qu'est-ce que l'on ne peut pas montrer.
Oui, c'est une question à plusieurs réponses. Le regard, oui. Bah, on dit toujours que le regard et l'âme, c'est la même chose, quoi. C'est toute la force du dessin et c'est toute la difficulté du dessin. C'est de, en quelques traits, d'essayer de traduire des sentiments très, très complexes. c'est la problématique même de la bande dessinée, c'est que, bien sûr, la bande dessinée, il y a 100 ans, on expliquait tout, il y avait des petits sous-titres, les petites phrases qui disaient « il se passe ceci dans l'image ». Le public est devenu adulte et les dessinateurs aussi, donc maintenant, c'est à nous de faire sentir les choses de même. Je suis très fier parfois quand un lecteur me dit qu'il a entendu les bruits. Voilà. Oui. Donc quand je crée du son, là, je sais que j'ai gagné mon histoire. Après, bon, le regard, oui, ce sont des témoignages de gens qui ont vu, et donc les yeux sont les choses les plus importantes. Après, votre deuxième question, c'était sur représenter les corps, par exemple, et ça a été un débat entre nous, une question, le rapport au respect de la victime. En plus, les gamins qui ont 90 ans minimum maintenant étaient plutôt loin, parce qu'ils savaient quand même que ce qu'ils regardaient, il ne fallait pas le voir, donc ils étaient éloignés. Donc ils ont une vision des choses décalée. Et au départ, j'étais parti sur le spectaculaire, aller dans la scène même, dans la fosse même. Et c'était une grosse erreur. Et Pierre Roland, les historiens, moi-même, ça a été un débat entre nous. Et il a fallu reculer, se remettre dans la position du témoin, du gamin qui était loin. Et puis aussi respecter les victimes, donc ne pas mettre de corps nu. Et ça, c'était une corde raide, c'est parler de la violence, parler de l'horreur, sans devenir exhibitionniste. C'était toujours la limite et le respect de l'humain, plus que le respect de l'être, était devenu primordial dans l'histoire.
Pierre Roland, vous voulez rajouter ?
Oui, je voulais dire que, outre le fait que cet album repose sur deux temporalités, ce voyage dans le temps à travers ses flashbacks, ses témoignages, ses récits de ses témoins, et ce cheminement aujourd'hui de ses étudiants et de ce journaliste avec les professeurs et Yara Dinounoum, on s'est positionné du côté du témoin. Quand on regarde les nombreux ouvrages qui paraissent sur la Seconde Guerre mondiale, notamment sur la Shoah, on se positionne souvent du côté des victimes, des Juifs déportés, Adieu Birkenau par exemple. Ou bien, on peut se positionner, comme le dernier film, La Zone d'intérêt, du côté des bourreaux. Nous, on a choisi de se mettre du côté du témoin, de ce voisin, de ce proche qui voit, qui assiste. Et en plus, ce témoin est un enfant. Le premier titre qu'on avait proposé à l'éditeur, d'ailleurs, c'était pas « Je n'ai pas oublié », qui a toute sa force aussi, hein, et que je trouve effectivement tout à fait pertinent, mais c'était « Souvenirs d'enfant ». Et ce titre, pour moi, me parlait, parce que dans l'inconscient collectif, quand on parle de souvenirs d'enfant, on a un côté nostalgique, on a un côté Madeleine de Proust. Or là, on montre l'horreur, on montre l'indicible, on montre le traumatisme. Et c'est vrai qu'il y a aussi la question dans les premières pages que je me pose à travers le personnage principal. Quelle est la valeur d'un témoignage d'une personne qui raconte quelque chose qui s'est passé il y a 80 ans et en plus qui était un enfant? On y répond à cette question. Mais l'originalité, c'était vraiment de se positionner du côté du témoin. C'est pour ça d'ailleurs qu'une des planches que Christophe avait réalisées au départ était vue du côté du bourreau devant la fosse. On faisait erreur. Il fallait cette distance et se mettre à la place du témoin, de cet enfant qui assiste à l'horreur, et de permettre en même temps au lecteur de se mettre aussi à la place de ce témoin et de ces personnes. L'idée, c'est vraiment d'accompagner le lecteur dans ce cheminement, dans cette histoire, dans ce voyage.
Le jeune Moshe Weinstein a pris le métier de luthier chez Jacob Zimmermann à Varsovie. En 1938, de Vilnius, où il était originaire, il émigra vers la Palestine mandataire, il devint luthier à Tel Aviv, et un jour, Il eut à restaurer un violon fissuré qu'un homme avait rapporté d'Ouzbékistan où beaucoup de juifs s'étaient réfugiés. Il reconnut le violon. C'était celui de son maître, Jacob Zimmermann, disparu dans la grande nuit polonaise. Il accueillit alors dans son atelier des dizaines et des dizaines de violons rescapés de la grande tragédie, du Khurban, comme on disait alors. Ils restèrent dans un coin de l'atelier jusqu'au jour où son fils Amnon Weinstein décida de le restaurer. Ce sont les violons de l'espoir. Et c'est sur le violon de Jacob Zimmermann que nous venons d'entendre Shlomo Mintz dans une célèbre pièce d'Ernest Bloch, Nigun du Baal Shem, lors d'un concert à Monaco avec l'Orchestre Philharmonique de Monaco sous la direction de Gianluigi Gelmetti. C'était en 2013. 4 pages de votre roman graphique sont consacrées au violon. On sent que c'est un moment particulièrement fort dans cette aventure. Pierre Roland Saint-Dizier, comment cela s'est passé? Parlez-nous de Clémence.
Clémence. Tout d'abord, l'idée de cette séquence m'est venue lors d'une restitution du voyage de mars 2022 à Albi par les étudiants vers le grand public. Et un des étudiants est venu avec son père et ils ont joué un morceau de musique avec leur violon. Et je me souviens de ce moment très fort, très intense. Et je me suis dit que c'était important de le voir quelque part dans cet album. La difficulté quand on écrit un scénario, c'est trouver le juste équilibre entre ce qu'on a vécu, la volonté de raconter beaucoup de choses, et le choix aussi de la fiction pour qu'il y ait une certaine fluidité, sans oublier l'importance que l'histoire sente vraie, soit juste, sonne juste. Et ce violon fait écho aussi à ces étudiants qui, au lieu de mettre des mots sur ce qu'ils avaient vu, eh bien, ont dessiné. On le voit d'ailleurs à travers une case avec un étudiant qui dessine le portrait d'un témoin. On le voit aussi à travers ces moments de silence, de recueillement, après avoir écouté un témoin à l'endroit où ont été fusillés les Juifs, dans une forêt, le long d'une voie ferrée. Yara Dinounou m'a souvent proposé qu'on prenne un temps de recueillement, de silence. Et le soir d'ailleurs, pour libérer la parole, on proposait aussi un temps d'échange pour que les jeunes puissent aussi s'exprimer, dire ce qu'ils ressentaient, leurs émotions, etc. Ce moment de musique proposé par Clémence, qui est un personnage qui représente en fait les étudiants en général, moi me parle beaucoup puisqu'il fait aussi écho à ces valises qui sont exposées à Auschwitz et qui contenaient probablement les objets les plus précieux de ces Juifs, de ces Roms déportés à Auschwitz. Ça me fait penser aussi à ces photos qu'il y a dans les couloirs du casernement d'Auschwitz, où on voit tous ces anonymes à qui on a souhaité, à travers cette bande dessinée, aussi rendre hommage, rendre aussi quelque part leur dignité. Qu'est-ce qui reste d'une personne disparue, si ce n'est un nom, si ce n'est parfois une photo, un objet, un témoignage? Et pour moi, comme beaucoup de gens qui ont perdu des proches, tant qu'on parle de ces personnes, tant qu'on a des souvenirs, pas seulement forcément des objets concrets, pour moi, ils sont toujours vivants. Et cette bande dessinée est l'occasion réellement de parler de ces anonymes, de leur redonner quelque part un peu vie. Et Clémence, en jouant ce morceau de musique, fait écho donc à ce que Amnon, son père et son fils ont fait, en redonnant vie à ces violons et quelque part en redonnant vie à ces musiciens qui ont disparu au cours de la Shoah. Moi, la musique me parle beaucoup. Quand j'écris, j'écoute la musique. Je ne veux pas dire que ça me berce, mais ça me met dans une situation aussi de méditation, en fait, pour trouver les justes mots. Parce qu'effectivement, cet album, on évoque un sujet sensible. On se pose d'ailleurs la question, est-ce qu'on était légitime pour en parler? Il faut beaucoup d'humilité, sincèrement, pour trouver les mots justes, y compris dans le dessin. Voilà un peu ce que m'inspirait ce violon, qui offre aussi un temps de respiration pour le lecteur et qui, je pense, fait écho à beaucoup de choses.
Vous évoquez le camp de Brins, où vous allez mettre un visage et un nom qui va devenir paradigmatique d'autres anonymes. Je crois que c'est important. Racontez-nous cette découverte de Brins et ce passage avec Elena.
C'est un personnage fort. Cette femme, que je ne connaissais pas, m'a touché. Et c'est vrai qu'à un moment, le temps, l'espace s'est raccourci et je me suis senti très proche de cette forme. Alors, je resitue le contexte. Les étudiants ont travaillé aux archives départementales du Tarn et ont découvert une liste de femmes juives qui ont transité par le camp d'internement de Brins, qui se trouve près de Gaillac et qui se trouve à une dizaine de kilomètres de là où j'habite. J'avais vaguement entendu parler de l'existence de ce camp, complètement envahi par la végétation, au bord du Tarn. Et j'ai découvert l'histoire de ce camp. Et j'ai découvert l'histoire de cette femme, Elena, d'origine juive, polonaise, qui est arrivée en 1939 en France, probablement pour fuir le nazisme. On a trace d'elle, notamment elle est passée par un camp de Rieucros en Lozère. On sait qu'elle était infirmière, elle était née en 1916. Là, pour le coup, j'ai pris ma casquette de journaliste pour en savoir plus. J'ai contacté un historien qu'on avait rencontré à Lublin, en Pologne, qui m'a donné des éléments. L'association qui entretient cette mémoire du camp de Brins m'a également donné des informations. On sait qu'elle a notamment souffert d'une septicémie suite à un avortement. On a découvert qui étaient ses parents. On a découvert qu'elle avait des sœurs. On a découvert que, lors de la rafle de 1942, elle se trouve dans ce camp d'internement à Brins. On sait qu'elle part ensuite sur Drancy. Par les recherches de Klarsfeld, on découvre dans quel convoi elle est emportée et à quel moment elle arrive à Auschwitz. Et on sait qu'elle n'a pas survécu. Moi, cette femme, cette anonyme, on lui a remis un visage. Elle représente finalement tous ces Juifs disparus, oubliés, dont il ne reste parfois rien. Donc Elena, moi, je la porte réellement dans mon cœur. Je suis fier d'avoir parlé d'elle. Ça a été difficile parce que quand elle a été enregistrée en France, le nom était compliqué, il a été mal orthographié, donc on s'est un peu perdu. Il y avait marqué qu'elle était née à Lublin alors qu'elle était née à Lubienne. Voilà. Donc cette recherche, on n'a pas pu avoir plus d'informations, mais pour moi, elle était réellement vivante à travers la recherche qu'on a menée.
On a l'impression que ce livre est quelque chose qui vous a transformé.
On ne ressort pas indemne d'un livre comme ça, de ces deux voyages. Moi, je n'étais jamais venu en Pologne. Je n'avais jamais visité de centre de mise à mort. Alors, j'avais visité, étant alsacien d'origine, j'avais découvert le camp du Struthof, qui m'avait déjà marqué. Je l'avais visité quand j'étais un jeune adolescent. Et c'est vrai que quand on est sur place, la force du lieu, rien ne vaut le fait d'être là. Je n'imaginais pas l'immensité d'Auschwitz. Je n'imaginais pas ces milliers de sites d'exécution. Alors, on en a découvert que quelques-uns. Imaginez-vous, nous sommes en mars, en plein hiver, en Pologne. Il fait un froid glacial. On est avec ses étudiants dans un silence de marbre. On écoute cette femme de plus de 80 ans, 90 ans, qui est là, qui nous raconte ces cinq juifs qu'elle voit au loin, devant cette fosse. Elle voit ses deux frères qui s'embrassent avant de se dire adieu. On voit ce petit papier qu'elle sort de sa poche avec le nom de ses deux frères pour qu'elle nous transmette ce message. Et on fait forcément écho à ce que Elie Wiesel disait. Quand on a écouté un témoin, on devient responsable. Ça nous engage, ça nous responsabilise. Et donc, ça nous bouleverse. Il y a place à l'émotion. Il y a place aussi à la réflexion et aussi à notre propre introspection par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui.
Alors, ce que tu viens de dire... Pierre-Roland Saint-Dizier,
je réitère.
Christophe Girard, me fait penser à cette phrase de Simone Veil. Je n'aime pas l'expression devoir de mémoire. Le seul devoir, c'est d'enseigner et de transmettre. Et j'ai l'impression, Christophe Girard, en regardant vos dessins superbes, que vous étiez dans ce désir d'enseignement, dans ce désir de transmission.
En tant qu'ancien prof, c'est presque viscéral. Je fais de la bande dessinée historique, je fais des sujets très difficiles, mais c'est la première fois que je me suis mis à pleurer sur ma table. Quand je subis une telle émotion, je suis obligé de la remettre dans mes feuilles et de tout mettre. Et moi, je m'en fiche que ce soit des Roms, que ce soit des Juifs, que ce soit des homosexuels, parce que ce sont des êtres humains. Et même quand on parle de millions de personnes, chaque million, c'est d'abord une unité, c'est d'abord un être humain. Et ça, j'ai voulu le mettre dans cette BD.
Pierre-Roland Saint-Dizier.
Cet album a été pensé avec plusieurs objectifs. D'abord, effectivement, savoir, comprendre, découvrir pour certains ce qu'était la Shoah par balle. Mais effectivement aussi pour briser l'ignorance, lutter contre le révisionnisme, le relativisme, ancrer dans les faits. Il y a les témoignages effectivement, de ces personnes qui ont assisté à ces fusillades de masse. Mais derrière ça, il y a un gros travail de recherche, de recoupement à partir de sources, d'archives, pour vérifier, pour s'assurer que, effectivement, leur témoignage coïncide bien avec la réalité, la vraie. Ces 2 millions de Juifs qui ont été exécutés. C'est pour ça que cette bande dessinée, l'importance de raconter l'histoire, de la transmettre, de transmettre ce patrimoine, c'est pour ça aussi que Auschwitz est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Moi, j'ai sur le mémorial là-bas, à côté des fours crématoires qui ont été dynamités avant l'arrivée des Russes, il y a bien écrit que ce site où les nazis ont assassiné 1,5 million d'hommes, de femmes et d'enfants soit à jamais pour l'humanité un cri de désespoir et un avertissement. Un avertissement. Donc, si cette BD peut lutter contre les discriminations, quelles qu'elles soient, je parlais avant qu'on s'est focalisé sur les témoins, mais nous sommes tous aujourd'hui des témoins. Nous sommes tous des proches qui assistons à des discriminations, même peut-être minimes. Et c'est vrai que on ne peut nier non plus cette montée de l'antisémitisme aujourd'hui. À comment nous, personnellement, on y répond? Je crois qu'on a tous notre examen de conscience à faire. Il serait trop facile de dénoncer sans forcément regarder aussi notre propre comportement. Donc sans que cet album soit une leçon d'histoire et une leçon de morale, elle doit aussi quand même nous interpeller et être ancrée dans notre quotidien.
Merci Pierre-Roland Saint-Dizier, merci Christophe Girard pour cette conversation essentielle. Je rappelle le titre de votre bande dessinée, Je n'ai pas oublié, sous-titré « Histoire au pluriel de la Shoah par balle ». C'est aux éditions du Rocher, un livre qui trouvera sa place auprès de toutes les générations et rappellera avec force, comme dit Philippe Roth, qu'être vivant, c'est être fait de mémoire. Si un homme n'est pas fait de mémoire, il n'est fait de rien. Merci encore, messieurs.
Merci Marc Alain.
Merci Marc Alain.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Marie Le Peintre, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de nos invités sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Kol Touv, Le Hitraot, au revoir, bon dimanche à tous, Chag Sameach, bonne fête de Pessah et à dimanche prochain.